Bonjour. Donc merci de cette invitation et de cette opportunité pour réfléchir ensemble aux enjeux associés au changement climatique. Je ne sais pas en fait si parmi vous, vous avez déjà eu une formation sur la question du changement climatique dans votre parcours initial. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez eu une formation dans votre cadre professionnel sur la question du changement climatique? Je pense que ça illustre quelques-uns des défis qui sont devant nous. À ce que les connaissances scientifiques qu'on construit, qu'on renforce, qui s'étayent de plus en plus, soient le plus largement possible partagées. Alors j'attends en fait que ma diapositive apparaisse. Alors vous allez voir un fil conducteur dans cette diapositive, c'est une représentation visuelle du réchauffement climatique à la surface ici de la Terre, continent et océan, dans toutes les régions, à partir de l'ensemble des observations. C'est entre 1850 et l'année dernière, 2018, une année, une barre. Et vous voyez ainsi le degré de réchauffement qui a été observé depuis 1850. Ce réchauffement qui est dû à nos rejets de gaz à effet de serre, qui piègent de la chaleur et conduisent à un ensemble de bouleversements dans le système climatique. Hop. Alors, je vais essayer de passer la diapositive suivante. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez passer la suivante, s'il vous plaît ? Merci. Donc les points clés de cette intervention sont les suivants. Le climat change au Luxembourg, en Europe et partout dans le monde, avec des effets qui sont déjà visibles, aussi bien pour les écosystèmes que pour les activités humaines. Par exemple, les vagues de chaleur qui ont touché l'Europe de l'Ouest, le Luxembourg, la France au mois de juin et l'été dernier, ont été rendues beaucoup plus probables et ont gagné en intensité parce que nous avons rejeté des gaz à effet de serre. Ils affectent aussi bien les rendements agricoles, des écosystèmes comme les forêts, ou le bien-être au travail, la productivité au travail, par exemple. Ces changements sont dus aux rejets mondiaux de gaz à effet de serre et une partie des changements sont inéluctables pour les décennies à venir. Et donc, par rapport à l'action pour le climat, il y a une dimension importante qui est l'adaptation, c'est-à-dire regarder les évolutions passées, prendre en compte les simulations d'évolution future du climat pour se préparer à ces changements inéluctables, tirer parti des opportunités quand il y en a, et puis anticiper pour gérer les risques, renforcer la résilience pour les écosystèmes comme pour les sociétés humaines. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Le volet suivant, c'est qu'au-delà en gros de 2050, les évolutions à long terme, elles vont fondamentalement dépendre des choix qu'on va faire ou ne pas faire vis-à-vis des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Nous avons de nombreux leviers d'action pour agir, mais ces évolutions à long terme vont profondément dépendre de nos choix. Un diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques éléments de repère sur les sciences du climat, donc c'est mon domaine, sur la partie plus physique du climat. Le premier volet, c'est l'observation des changements, avec de grands réseaux de mesures. Donc, les instruments, la plupart des instruments ont été inventés, disons, au XVIIe siècle, puis se sont raffinés, et on a standardisé graduellement les méthodes d'observation. Et c'est grâce à ça, grâce à la construction de réseaux de mesures, au départ pour la prévision du temps, qu'on est capable de connaître l'évolution du climat à la surface de la Terre depuis en gros 1850. Et nos observations sont bien sûr plus précises depuis quelques décennies. Donc une observation à la surface des océans et des continents qui s'est complétée à partir des années 1970-80 par une observation de la Terre depuis l'espace, et le Luxembourg y contribue d'ailleurs, qui permet d'observer des choses difficiles d'accès, la montée du niveau des mers partout, ou bien le recul de la glace de mer, la banquise, près du pôle Nord, ou bien l'évolution des grosses calottes du Groenland et de l'Antarctique. L'observation depuis l'espace joue un rôle clé pour cela. On a également une connaissance de l'évolution du climat sur le temps long, grâce à l'utilisation des archives naturelles. Moi-même, j'ai travaillé sur les carottes de glace au Groenland, en Antarctique ou au Tibet. On en a beaucoup d'autres dans tous les milieux naturels. Et ces informations sur le temps long nous permettent de comprendre comment fonctionne le système climatique en réponse à des perturbations naturelles, et souligne à quel point la situation actuelle est inédite, brutale, par rapport au rythme des variations passées du climat. Et puis enfin, pour comprendre le fonctionnement du climat, on utilise une physique solide, bien établie, les transferts de rayonnement, le fonctionnement des fluides que sont l'océan et l'atmosphère. Cette physique-là, elle a été construite, elle est vraiment bien établie depuis le 19e siècle, pour faire simple, mais on l'applique à un objet complexe. L'atmosphère, sa circulation, la présence de l'eau sous forme de vapeur, de nuages, l'océan, la surface des continents, les interactions avec la végétation, la partie de la cryosphère, tout ce qui est gelé, donc la neige, la glace, les sols gelés, et l'ensemble de leurs interactions. Et ce système climatique, lorsqu'on le perturbe, il a la capacité d'avoir des processus amplificateurs ou stabilisateurs. Et donc, ce qui fait l'intérêt des sciences du climat, c'est comprendre ces processus. Et grâce à ces connaissances, en fait, on a construit depuis les années 1970 une représentation numérique du climat. C'est ce qu'on appelle des modèles de climat. Pour la partie atmosphère, à partir de l'état de l'atmosphère aujourd'hui, ça permet de prévoir le temps à quelques jours. Mais pour le plus long terme, en fonction du bilan d'énergie de la Terre, donc les échanges de rayonnement avec l'espace, c'est ce qui permet de comprendre le fonctionnement du climat, les grandes variations passées, les processus actuels, et d'explorer des futurs plausibles à partir de cette approche scientifique rigoureuse. En France, par exemple, il y a deux modèles de climat qui participent à ces travaux de recherche au niveau international. Les évolutions qu'on observe depuis une trentaine d'années, elles ont été attendues. Elles ont été attendues par les premières simulations d'évolution du climat disponibles dès la fin des années 1980. Pour notre communauté, ça n'est pas une surprise. C'est parfois étonnant de voir se dérouler des choses qui avaient été anticipées, et même la poursuite de rejets croissants de gaz à effet de serre, malgré l'information scientifique qui était déjà disponible il y a plus d'une trentaine d'années. Alors je reviens sur mon code barre. Donc une année, une barre, on est ici entre 1900 et 2018, et en fait une ligne, un pays. Donc là on regarde au-dessus des continents. Le réchauffement au-dessus des continents, il est plus important que sur la moyenne planétaire. Il est plus important qu'au-dessus des océans. On en est en moyenne à déjà 1,5 degré de plus que la fin du 19e siècle, en moyenne sur les continents. Alors vous voyez donc ce réchauffement progressif important au-dessus des continents. Et j'ai sorti les barres qui correspondent au Luxembourg et à la France, pour donner deux exemples, et qui illustrent ce réchauffement qui s'est accentué au cours des dernières décennies, au Luxembourg comme en France. Alors, la cause de ce réchauffement climatique, elle est clairement établie. Elle est liée à nos rejets de gaz à effet de serre, et voici les trois plus importants d'entre eux que nous ajoutons à l'atmosphère. On représente ici leur teneur dans l'atmosphère depuis 2000 ans. Sur quelques dizaines d'années, des mesures directes dans l'atmosphère, et avant, des mesures indirectes grâce à l'air piégé dans les carottes de glace du Groenland ou de l'Antarctique. C'est plutôt l'Antarctique ici. Donc vous voyez un niveau relativement stable au cours de la période pré-industrielle, un niveau typique qu'on connaissait pendant les périodes douces entre les glaciations au cours du dernier million d'années. Et cette rupture depuis la révolution industrielle, donc le fait d'avoir une déforestation accélérée, le fait de brûler du charbon, du pétrole et du gaz, rejette des quantités colossales de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plus de 40 milliards de tonnes chaque année. Et donc, on a aujourd'hui un niveau de CO2 dans l'atmosphère qui est 40% de plus que le niveau naturel pré-industriel. D'autres activités, l'élevage à grande échelle de ruminants, la fermentation de déchets, la construction de barrages, la riziculture, conduisent à rejeter davantage de méthane dans l'atmosphère, un autre gaz à effet de serre. On est aujourd'hui à 2,5 fois dans l'atmosphère le niveau naturel. Et puis, d'autres catégories d'activités, en particulier l'utilisation d'engrais azotés dans l'agriculture intensive, conduisent à rejeter de l'oxyde nitreux. Et la troisième courbe en vert montre cette augmentation. On est également à 30% de plus que le niveau pré-industriel en oxyde nitreux dans l'atmosphère. Donc, nous rajoutons ces gaz qui sont présents à l'état de trace. Et chacun de ces gaz a des propriétés assez extraordinaires parce que lorsqu'on l'ajoute dans l'atmosphère, il empêche une partie du rayonnement de chaleur de la Terre, un rayonnement invisible, infrarouge, qui dépend de la température, il empêche une partie de ce rayonnement de partir vers l'espace, donc qui conduit à une accumulation de chaleur. Alors je vais insister sur le dioxyde de carbone. Il est particulièrement important pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, c'est parce que c'est celui que nous ajoutons en quantité très importante et qui piège le plus de chaleur. La deuxième raison, c'est que nous perturbons complètement le cycle du carbone à l'échelle de notre planète. Sur ce que nous mettons dans l'atmosphère, donc on imagine que l'atmosphère est une baignoire, c'est l'image qui est déroulée ici. Donc chaque année, nous mettons 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, déforestation et puis combustion d'énergie fossile. À peu près la moitié reste dans l'atmosphère, seulement la moitié de ce qu'on rejette. Une partie rentre dans les océans, ce qui conduit à l'acidification des océans et perturbe la chimie de l'eau de mer, et la capacité de certains organismes marins à produire leur squelette à partir des carbonates présents dans l'eau de mer. Une autre partie sert d'engrais, fertilise en fait la végétation et stockée sous forme de végétation dans les sols, sous forme de plantes. Cet effet-là est limité par l'abondance de l'eau, l'abondance de nutriments ou l'occurrence d'incendies. Donc cette capacité de la végétation à stocker du carbone dépend des conditions climatiques. Quand on a par exemple des sécheresses importantes, on n'aura pas de photosynthèse et à l'inverse, on aura une dégradation de cette matière organique qui va repartir vers l'atmosphère. Ce qui reste dans l'atmosphère, donc la moitié de ce qu'on met chaque année, va y rester très longtemps. On estime que 15 à 60% de ce qu'on met dans l'atmosphère, vous êtes peut-être venu en voiture, vous mettez du CO2 dans l'atmosphère, 15 à 60% de ce qui est dans l'atmosphère aujourd'hui va y rester pendant environ 2000 ans et continuer à changer le climat. Donc c'est une forme de déchet à très longue durée de vie dans l'atmosphère qui cause l'acidification des océans et qui est le premier facteur de réchauffement climatique. Alors, en fait, chaque gaz que nous ajoutons, chaque particule qui a un effet parasol, a des propriétés différentes par rapport au climat, et on va comparer leurs effets en comparant la manière dont ils piègent de la chaleur. Donc, on regarde ici, en fait, les flux d'énergie entre le haut de l'atmosphère et l'espace, et on va mesurer l'effet réchauffant ou refroidissant de chaque composé qu'on rajoute dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, l'effet le plus grand, c'est le dioxyde de carbone, suivi du méthane et d'autres gaz que nous ajoutons. Et c'est un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules, des aérosols en anglais. Donc ces particules qui peuvent être nuisibles, néfastes pour la santé publique, qui vont rester concentrées près des grandes villes, ne pas rester très longtemps dans l'atmosphère, et qui ont un effet parasol direct ou indirect par la formation de certains types de nuages. Et au final, l'effet net des activités humaines, depuis la période pré-industrielle, depuis les années 1850, c'est de piéger de la chaleur qui ne part plus vers l'espace, et nous en sommes certains. Alors, en gros, le changement climatique, qu'est-ce que c'est ? Donc, on rajoute ces gaz dans l'atmosphère, ils piègent de la chaleur. La Terre, elle reçoit le rayonnement solaire, ça réchauffe la surface des continents, des océans, et plus on rajoute ces gaz, plus on empêche la chaleur de la Terre de partir vers l'espace. Donc, le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre crée un climat qui dérive, un climat qui se réchauffe. Et si on regarde le climat comme une sorte de grosse machine, on peut regarder où va cette énergie. Donc l'énergie supplémentaire qui ne part plus vers l'espace, il y en a à peu près 3% qui réchauffe les sols. Ça fait fondre, par exemple, les sols gelés de l'Arctique ou les sols gelés en haute montagne. Il y en a 3% donc, qui est converti en fonte de la banquise arctique, donc la partie flottante à la surface de l'océan, qui fait fondre l'ensemble des glaciers, le manteau neigeux, et puis le Groenland, et qui conduit à un glissement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique. Ce qui nous intéresse, nous, qui vivons à la surface, c'est plutôt la température de l'air. Et l'augmentation de la température de l'air en surface, c'est que 1% de ce réchauffement supplémentaire. Ce degré dont on parle souvent. Le plus gros de l'énergie supplémentaire est rentré dans les océans, plus de 90%. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que ça rend le changement climatique irréversible. Donc nous, on met le chauffage, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que l'océan a accumulé cette chaleur, et quoi qu'on fasse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les eaux de mer plus chaudes vont ressortir cette chaleur, réchauffer l'atmosphère par en dessous, et le temps de mélange des masses d'eau depuis la surface jusqu'au fond des océans, c'est de l'ordre de 1000 ans. Impossible de revenir en arrière. Ce réchauffement des océans, il entraîne aussi un ensemble de perturbations. Donc l'océan nous aide en accumulant de la chaleur, mais c'est à quel prix ? C'est au prix d'une dilatation et d'une montée du niveau des mers, l'océan plus chaud gonfle. C'est au prix d'une perte d'habitat pour certains écosystèmes marins, des déplacements des espèces de poissons, une baisse du potentiel de prise de pêche, en particulier dans les régions tropicales. C'est également une augmentation des vagues de chaleur marine qui détruisent les récifs de coraux tropicaux ou les forêts de laminaires, de grandes algues, et leur capacité à assurer la reproduction d'un ensemble d'espèces marines qui peuvent avoir une valeur commerciale pour la pêche, par exemple. Donc voilà l'image d'ensemble de ce qu'est le changement climatique. Et le recul de la neige, de la glace, dans les régions arctiques, amplifie le réchauffement. On perd leur effet miroir. Et puis dans un climat plus chaud, l'atmosphère, quand elle est plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc ça va amplifier le réchauffement. Donc le réchauffement qu'on observe, c'est le résultat de ces processus amplificateurs en cascade qui réagissent à la perturbation que nous exerçons. Alors on retrouve la courbe de tout à l'heure qui était représentée sous forme de barre verticale, mais dans la version scientifique, c'est moins joli, je m'en excuse. Et vous avez donc ici, chaque mois, La différence de température pour ce mois par rapport à la valeur moyenne entre 1850 et 1880. C'est en noir ce qui est observé. En bleu, vous avez la part de ces variations de température que l'on attribue aux facteurs naturels, les petites variations de l'activité du soleil avec ses cycles de 11 ans, et de temps en temps une grosse éruption volcanique qui met plein de poussière avec leur effet parasol. Donc vous voyez sur la courbe bleue que ces facteurs naturels n'expliquent en rien l'accumulation de chaleur dans le système climatique ou le réchauffement à la surface de la Terre. S'il n'y avait eu que ça, il y aurait eu plutôt un léger refroidissement sur les derniers 50 ans, un peu plus d'éruptions volcaniques que la moyenne. Et vous voyez en orange notre estimation de la part de ce réchauffement due à l'effet net de nos rejets de gaz à effet de serre et de nos rejets de particules. Et notre meilleure estimation, c'est que c'est 100%, avec une plage d'incertitude de 20% de ce qui est observé. Et puis à cet effet-là se superpose la variabilité spontanée du climat, les échanges de chaleur entre l'océan et l'atmosphère, le hasard de la trajectoire de l'air, qui provoque cette variabilité d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre, qui se superpose à cette tendance. Enfin, donc, quand le climat change, les événements météorologiques changent de caractéristiques. La fréquence de certains événements extrêmes ou leur intensité change. C'est directement le cas pour les événements de vagues de chaleur. Donc vous avez là une représentation d'un climat moyen stable, avec une certaine valeur moyenne, et puis une certaine probabilité d'avoir des valeurs proches de cette moyenne. Vous avez de temps en temps l'occurrence d'épisodes froids, et de temps en temps l'occurrence d'épisodes chauds, rares. Quand la température moyenne augmente, on décale en fait cette courbe. Et donc vous avez de temps en temps des épisodes frais, comme maintenant, mais c'est beaucoup plus dur de battre des records de froid, et les épisodes froids sont plus rares. A l'inverse, les épisodes précédemment chauds records deviennent beaucoup, beaucoup plus fréquents, et on a de nouveaux épisodes plus chauds qui se produisent. C'est exactement l'évolution qui est observée, aussi bien à la surface des continents qu'à la surface des océans. C'est même amplifié, parce que quand les sols sont plus secs, il y a surchauffe, et donc on a en fait une augmentation disproportionnée de l'occurrence et de l'intensité des épisodes très chauds. Donc, qu'est-ce que c'est le changement climatique ? Ce n'est pas simplement ce que je décrivais tout à l'heure, une tendance au réchauffement partout. C'est aussi donc, une occurrence d'événements extrêmes modifiés, moins d'extrêmes froids, plus d'extrêmes chauds. C'est pour la même tempête, hein, comme une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité, une probabilité qui augmente d'avoir des épisodes de pluie torrentielle plus intenses. Et c'est observé dans de nombreuses régions du monde, donc avec le risque de crues associées. Une atmosphère plus chaude, elle peut aussi vider plus rapidement les sols de leur humidité. Et donc, dans certaines régions, on observe une accentuation de l'intensité, de l'extension ou de la sévérité des sécheresses. C'est le cas tout autour de la Méditerranée, dans certaines régions d'Afrique, avec des impacts importants sur la ressource en eau et des impacts également importants indirects sur le risque de feux de forêt ou bien sur les rendements agricoles par l'effet de la sécheresse sur les plantes. On a également des dépérissements de forêt en réponse à ce type de situation. Donc on a un recul généralisé de l'enneigement au printemps sur les continents de l'hémisphère nord, y compris l'Arctique. Un recul généralisé des glaciers dans la plupart des régions du monde. Alors quand la glace qui était précédemment sur le continent fond et rejoint l'océan, ça contribue à la montée du niveau des mers, de même que la fonte ou l'écoulement accéléré des grandes calottes polaires. Donc, le niveau des mers, la montée du niveau des mers est une conséquence directe du réchauffement. C'est en fait un excellent indicateur de l'état du climat par l'effet de ce qui se passe sur les continents par la fonte des glaces et par le fait que l'océan plus chaud gonfle, comme le mercure dans un thermomètre, et contribue aussi à la montée du niveau des mers. Donc sur les côtes, on observe déjà une augmentation des phénomènes de submersion du fait de cette montée du niveau des mers. On va plus facilement dépasser certains niveaux hauts quand on a une marée ou une tempête, ce qui cause des submersions côtières. Alors, quelles sont les évolutions futures plausibles ? Donc, on retrouve mon diagramme de tout à l'heure avec les barres. C'est un diagramme en fait, qui a été inventé par un climatologue britannique, Ed Hawkins. Donc, une barre, une année, on en est ici, en 2019. Quelles sont les évolutions à relativement court terme ? Vous voyez qu'elles sont les mêmes dans tous les cas. Sur les prochaines décennies, il faut se préparer à la poursuite des tendances déjà observées. Mais après 2050, après 2050, vous voyez que les évolutions peuvent être très contrastées. Un réchauffement, en gros, qui se stabilise, ou bien qui augmente légèrement, ou bien qui accélère, ou bien qui accélère fortement. Et qu'est-ce qu'en fait chacune de ces courbes représente ? Elles représentent différents scénarios d'émissions contrastées de gaz à effet de serre. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à augmenter, en gros, ça veut dire quoi ? Du charbon, du pétrole, du gaz conventionnel, non conventionnel, une agriculture intensive, avec la même pratique qui se poursuit. Donc, dans un scénario très intensif, on a déjà 1 degré de réchauffement aujourd'hui, et c'est une rupture par rapport aux derniers 2000 ans. On peut avoir jusque 5 degrés de réchauffement à la fin de ce siècle. Dans des scénarios où les émissions mondiales de gaz à effet de serre piquent, atteignent leur maximum, par exemple autour de 2030, c'est à peu près les promesses faites par les différents pays dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Donc si ça atteint un maximum en 2030 et ça baisse lentement, c'est plutôt 3 degrés de réchauffement à la fin du siècle, donc une accélération. Si par contre les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un maximum le plus vite possible, sont quasiment divisées par 2 d'ici 2030 ou 2040, et deviennent zéro pour le dioxyde de carbone entre 2050 et 2060, alors dans ce cas-là, le réchauffement pourrait être contenu en dessous de 2 degrés, qui est l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. Donc ce qu'on va décider de faire maintenant, ce qu'on va mettre en œuvre maintenant, ou pas, ça va en fait fondamentalement définir le climat dans lequel vont vivre les jeunes générations d'aujourd'hui. Alors juste un mot sur le travail que je mène dans le cadre du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc dans le cadre de ce groupe, nous passons en revue l'état des connaissances scientifiques sur la base de l'ensemble des publications. Donc nous avons rendu à la demande de la COP21 un rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, je vais dire quelques mots. L'été dernier, un rapport sur climat, utilisation des terres, sécurité alimentaire. Et au mois de septembre dernier, un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, donc toutes les parties gelées, avec en particulier un chapitre dédié aux régions polaires, qui sont aux premières loges, en fait, en particulier en Arctique, de ce réchauffement. Mais ça porte également sur le littoral, face à la montée du niveau des mers, et sur les effets indirects de ce qui se passe dans ces milieux, même quand on en vit très loin, comme ici au Luxembourg. Parce que l'état de l'océan va aussi affecter les conditions météorologiques, et en fait, ça va affecter l'ensemble des populations à la surface de la Terre. Donc ça, on a à peu près à mi-parcours de ce cycle d'évaluation, et puis on a un ensemble de rapports qui sont en cours, et je vous invite, si vous le souhaitez, à contribuer à leur relecture. Elle est ouverte à la communauté scientifique. Donc, on a actuellement la relecture du premier jet de ce rapport sur les impacts, au printemps prochain, du deuxième jet sur les bases physiques du changement climatique. Je précise également qu'il y a beaucoup d'acteurs qui nous aident à communiquer les résultats principaux de cette évaluation. Je remercie ceux qui ont contribué aux traductions citoyennes en français des résumés pour décideurs, pour que ce soit disponible plus rapidement aux francophones, par exemple. Je remercie également l'Office pour l'éducation au climat, qui en a fait une adaptation pour l'utilisation en classe, pour la formation des enseignants. Donc du matériel pédagogique, c'est disponible en français, en anglais, en allemand et je crois en espagnol, de sorte à pouvoir faire en sorte que ces connaissances les plus récentes, ici sur la base de l'analyse de plus de 20 000 publications scientifiques, soient transmises à l'ensemble de la société et aux premières loges, la jeunesse, parce qu'elle va être amenée à faire face au changement climatique tout au long de sa vie. Alors qu'est-ce que c'est en fait 1,5 degré de réchauffement en plus ou en moins ? Ça n'a l'air de rien par rapport à la variabilité de la température d'un jour à l'autre. Donc voilà en fait des projections, donc le résultat de simulation climatique, de ce qu'est un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud. Et vous voyez qu'en fait, par rapport au climat du 19e siècle, vous voyez que pour chaque région du monde, chaque demi-degré supplémentaire, c'est un réchauffement plus marqué, en particulier au-dessus des continents, toujours plus fort que la moyenne planétaire, et très fort dans les régions arctiques. Donc en moyenne annuelle, un réchauffement d'un degré et demi, c'est plutôt de l'ordre de 4 degrés en Arctique. Mais sur les températures de nuit en hiver, ça peut être jusque 6-8 degrés de plus en moyenne. Donc des changements particulièrement marqués dans cette région. Et chaque demi-degré compte en fait. Ce n'est pas les mêmes conditions, ni moyennes, ni en termes de récurrence d'événements extrêmes. En ce qui concerne les changements des précipitations en moyenne annuelle, vous voyez une situation très contrastée. Dans les régions de climat froid, c'est plus doux, plus humide. Dans les régions de climat méditerranéen, à cause de changements de la circulation atmosphérique, des vents, c'est plus chaud, en fait beaucoup plus chaud, c'est là où ça se réchauffe le plus, et beaucoup plus sec. Pour chaque demi-degré supplémentaire, on augmente très fortement le risque de pénurie d'eau dans les régions qui ont aujourd'hui un climat méditerranéen ou parfois semi-aride. C'est vraiment une des caractéristiques majeures des conséquences. Et pour chaque demi-degré, le niveau de changement augmente. Ça, c'est simplement l'aléa. Donc, on l'a sur les moyennes. On l'a de manière très claire sur les vagues de chaleur, le nombre de jours très chauds, l'intensité des pluies torrentielles, le risque de sécheresse. Un monde d'un degré et demi plus chaud, le niveau des mers continue à monter, mais il monte plus vite pour un monde de degrés plus chaud, avec des enjeux différents pour le littoral. Mais c'est que l'aléa. Le risque, c'est différent. Le risque, c'est cet aléa climatique, et puis est-ce qu'on est vulnérable? Est-ce qu'on est exposé? Et la vulnérabilité, l'exposition dépendent des lieux de vie, la géographie, des fragilités des sociétés humaines, des capacités à agir, ou des capacités d'adaptation des écosystèmes. C'est très inégalement réparti. Donc quand on fait une analyse de risque, on représente, nous, le niveau de risque qui va de indétectable à modéré ou sévère ou très sévère en fonction du niveau de réchauffement à la surface de la Terre. Donc on en est au niveau gris. On voit aujourd'hui des blanchiments répétés de récifs de coraux tropicaux et une dégradation importante. Il y a une capacité de récupération, mais elle est longue. Elle peut prendre une quinzaine d'années. Si vous avez une succession de vagues de chaleur plus fréquentes, vous perdez cette capacité de récupération. Et donc pour un monde d'un degré et demi plus chaud, on a le risque en fait d'avoir une dégradation sévère de plus de 70% des récifs de coraux tropicaux, quasiment tous à 2 degrés. En fonction du niveau de réchauffement climatique, on va affecter la production de biomasse dans les océans. Donc le plancton, et ensuite les animaux marins, et ceux qui sont utilisés pour les activités de pêche, d'aquaculture. Dans les régions tropicales, toutes les projections montrent une baisse du potentiel de prise de pêche qui augmente à mesure du réchauffement, en particulier dans les régions tropicales. Le seul endroit où ça augmente, c'est en Arctique. Donc les tensions vont augmenter pour gérer les pêcheries arctiques, puisque c'est le seul endroit où le potentiel de prise va augmenter. En Arctique, un monde d'un degré et demi plus chaud, c'est un monde où la banquise a fortement diminué, et on n'a quasiment plus de banquise sur l'océan Arctique une année sur 100. Un monde de 2 degrés plus chaud, la banquise a encore plus diminué, et on n'a plus de banquise à la fin de l'été une année sur 3. Donc des bouleversements complets, avec un mélange de vulnérabilité pour tous les écosystèmes qui en dépendent, pour se reproduire, pour s'alimenter, des modifications dans toute la colonne d'eau de tous les écosystèmes de l'océan Arctique en profondeur, des difficultés de déplacement pour les populations arctiques qui ont besoin de la glace pour se déplacer, par exemple en hiver, pour les modes de vie traditionnels, mais d'autres opportunités pour la navigation commerciale, pour le développement du tourisme. Les gens aiment bien voir les glaciers avant qu'ils aient complètement disparu. Des opportunités également pour l'exploitation minière, pétrolière, gazière, dans des régions difficiles d'accès. Mais ce potentiel économique lui-même crée d'autres risques pour l'environnement arctique ou pour les communautés locales. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Des enjeux majeurs pour la biodiversité terrestre. Dans ce rapport, on s'est basé sur une étude de 100 000 espèces de plantes, d'insectes, de vertébrés. Et on montre que le risque de perte de biodiversité sur les continents double entre un réchauffement d'un degré et demi et 2 degrés. Donc des risques sur le littoral, des risques d'inondations fluviales, des enjeux majeurs de sécurité alimentaire, en particulier dans les régions tropicales. Donc pourquoi? Parce qu'avec un réchauffement important, on rentre sur des nouveaux climats, sans précédent historique, sans analogue, dans ces régions tropicales, avec des conditions plus chaudes. L'agronomie, ça, c'est souvent en fait de chercher les espèces les mieux adaptées. Mais quand il n'y a pas d'analogue, où est-ce qu'on va chercher ces espèces pour cultiver les mieux adaptées? Vraiment un défi majeur. Donc des enjeux sur à la fois la productivité du bétail quand il fait très chaud dans les régions tropicales, et aussi sur les rendements de céréales clés, comme le blé, le maïs, le riz ou le sorgho. Et ça diminue en fait ce potentiel de rendement agricole sans adaptation majeure pour chaque demi-degré supplémentaire. Et puis il y a des enjeux en termes de santé publique. On les représente ici par rapport aux vagues de chaleur. Dans les endroits qui sont déjà chauds et humides, chaque demi-degré de plus risque de sortir des gammes de tolérance, même de la physiologie humaine. Quand vous atteignez des niveaux de réchauffement de 45 ou 50 degrés, des conditions très humides, on est vraiment à des limites pour la physiologie humaine, pour la capacité à travailler en extérieur. Donc dans certaines régions, en particulier les grandes villes tropicales, on est sur des situations sanitaires délicates, sans recours massif à l'air conditionné, ou pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce recours à l'air conditionné qui réchauffe l'air extérieur en refroidissant l'air intérieur. L'exemple, on a approfondi la partie liée à l'utilisation des terres, donc comment le climat agit sur des processus qui vont jouer sur les écosystèmes terrestres ou les caractéristiques à la surface des continents. Des enjeux majeurs de pénurie d'eau dans les régions arides qui augmentent très fortement pour un risque sévère autour de 2 degrés. Des enjeux également très importants pour les feux de forêt, en particulier sur le pourtour de la Méditerranée. La surface touchée par les feux de forêt sans adaptation majeure double entre maintenant et 1,5 degré de réchauffement dans cette région. Pour l'Arctique, toujours, des enjeux majeurs sur la dégradation des sols gelés. À 2 degrés de réchauffement, on risque de perdre à peu près 20% de la surface des sols gelés en surface de l'Arctique. À 4 degrés de réchauffement, c'est 70% de ces sols gelés. Or, ces sols gelés, ils contiennent de la matière organique ancienne, stockée sous forme gelée. C'est à peu près 2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Donc, il est certain que dans un réchauffement important, ces sols gelés vont relarguer des gaz à effet de serre. On n'est pas capable de chiffrer, mais s'ils relarguent à l'avenir des quantités importantes de gaz à effet de serre, ça réduit, nous, notre capacité à maîtriser l'évolution future du climat. Ça réduit notre marge de manœuvre. Et des enjeux majeurs en termes de sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui dans le monde, 820 millions de personnes mal nourries ou qui souffrent de la faim, 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité avec des enjeux croissants de santé publique. Donc un système alimentaire qui n'est pas soutenable, qui rejette depuis la ferme jusqu'à la poubelle en passant par l'assiette, un tiers des rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Donc il y a des enjeux majeurs à transformer notre système alimentaire, notre alimentation, de sorte à améliorer la santé publique, tout en réduisant les rejets de gaz à effet de serre, en stockant du carbone dans les sols. Et il y a des ensembles formidables de leviers d'action dans ce secteur-là. Alors, j'ai parlé un petit peu du niveau de la mer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui fait monter le niveau de la mer? C'est le réchauffement de l'océan, la fonte des glaces du Groenland qui a doublé sur 7 dernières décennies par rapport à la précédente, le glissement de certains secteurs de l'Antarctique qui a triplé sur 20 ans, et puis la fonte généralisée des glaciers. Alors, ce qui est observé, c'est la petite partie violette. Ce qui nous attend, c'est dans un scénario où on baisse massivement les rejets de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, c'est une poursuite de ces tendances. Vous voyez qu'il y a une inertie, il y a une continuation de ces tendances-là. Dans un scénario intensif en utilisation d'énergie fossile, c'est une très forte accélération des pertes de masse des zones glacées et de la quantité de chaleur dans les océans. Qu'est-ce que ça donne en termes de montée du niveau des mers? 15 cm au XXe siècle, aujourd'hui 3,6 mm par an, ça a plus que doublé par rapport au rythme moyen du XXe siècle, à cause de la contribution plus forte Groenland et Antarctique. Donc, ce qui se passe dans les régions polaires concerne les plus de 700 millions de personnes qui vivent sur les littoraux du monde. En 2050, il y aura 1 milliard de personnes qui vont vivre sur l'ensemble des littoraux du monde au ras de la mer. En 2050, on va avoir une accélération du rythme de montée du niveau des mers dans tous les cas. À horizon 2100, dans le scénario de forte baisse d'émissions de gaz à effet de serre, c'est de l'ordre d'une 50 cm et 1 mètre sur 2 siècles suivants. Dans un scénario intensif en énergie fossile, c'est plutôt de l'ordre de 80 cm jusqu'à 1,10 m à la fin de ce siècle. Et puis plusieurs mètres, entre 2,50 m et plus de 5 mètres, à horizon 2300. Ça n'intègre pas tous les processus potentiels d'instabilité de l'écoulement des glaces de l'Antarctique. C'est une source majeure d'incertitude. Alors pensons à Venise. Il y a beaucoup de régions du monde qui subissent à la fois un enfoncement. Donc Venise, en fait, s'enfonce un peu par la construction de la ville. Et puis la montée du niveau des mers. Là, en fait, ça va plus vite, parce que les deux phénomènes augmentent le risque. À Venise, on observe une répétition beaucoup plus fréquente des épisodes de très haut niveau, quand on a une grande marée et le vent, un épisode de tempête. Vraiment très répété, c'est-à-dire les événements qui se produisaient une fois par siècle ou moins se sont produits à plusieurs reprises sur la dernière décennie. À horizon 2050, dans tous les cas, pour beaucoup de régions tropicales et tempérées, ce qui était le record de niveau marin du siècle se produira tous les ans. Donc il y a un enjeu majeur d'adaptation du littoral aux tendances et à la récurrence des épisodes de très haut niveau marin. Et comme pour beaucoup d'autres sujets, la capacité à agir n'est pas la même partout. Si vous êtes à Singapour, alors je vais prendre les exemples de villes-états, je pensais à ça. Si vous êtes à Singapour, vous allez gagner sur la mer, prendre du sédiment ailleurs, dans le delta du Mékong par exemple, et avancer pour protéger. C'est aussi le cas à Monaco. Si vous êtes dans des grands deltas tropicaux, agricoles, vous allez devoir faire d'autres solutions, par exemple basées sur les écosystèmes. Vous allez peut-être reculer certaines activités quand vous avez de la place. Si vous êtes sur des petits atolls urbains, vous allez peut-être avoir la capacité de durcir certaines protections, restaurer certains écosystèmes pour vous protéger. Vous n'avez pas la possibilité de reculer, parce que vous n'avez pas les terres pour ça. Donc la capacité à agir par rapport à la montée du niveau des mers, elle n'est pas la même partout, et certains sont particulièrement vulnérables, ceux qui ont moins de capacité à investir et à agir. Qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible? Par exemple, 1,5 degré de réchauffement. Ça veut dire que la courbe des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone qui a fait qu'augmenter, Il faut qu'elle atteigne le plus vite possible un pic, que ça diminue extrêmement fortement pour arriver vers net zéro émission due à nos activités, en gros, à horizon 2050. Ça, c'est pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Si on attend une dizaine d'années et qu'on fait la même chose, ça veut dire qu'inéluctablement, on dépassera 1,5 degré, avec le risque de perte irréversible des écosystèmes, par exemple les récifs de coraux tropicaux ou ceux qui dépendent de la banquise, ou bien dans les régions alpines, le risque de gestion de crise croissante pour les plus fragiles des sociétés humaines, des centaines de millions de personnes dans le monde qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté, pêcherie artisanale, agriculture de subsistance, et qui vont être confrontées à des risques climatiques parfois croisés ou en cascade. Et ensuite, donc on aura dépassé 1,5 degré, si on veut y revenir, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable après, donc les jeunes générations d'aujourd'hui, à faire le ménage, c'est-à-dire à déployer des solutions qui n'existent pas aujourd'hui pour prendre le CO2 de l'atmosphère, l'enlever et le stocker de manière durable. Il y a des solutions pour ça, physico-chimiques, qui ont un coût. Il y a des solutions du type reboiser à grande échelle. Mais on sera 9 ou 10 milliards de personnes. Donc utiliser les terres pour reboiser ou pour produire de l'énergie de la biomasse, ça va rentrer en conflit avec la préservation de la biodiversité, les forêts tropicales, les tourbières, ou bien l'utilisation des terres pour nourrir les gens. Donc c'est des options qui peuvent être extrêmement risquées à grande échelle. Et puis, si on veut contenir le réchauffement là, simplement en dessous de 2 degrés, il faut atteindre cette neutralité à horizon 2070. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'options pour agir. Il y a plein d'options pour produire de l'électricité bas carbone en substitution aux énergies fossiles. Il y a plein d'options en termes d'économie circulaire, d'efficacité énergétique. On a aujourd'hui des possibilités de se déplacer sans utiliser du pétrole dans les voitures, ce qui est nouveau, c'est une rupture. Ça reste cher, mais c'est émergent. On a la possibilité de mettre en place des infrastructures pour des mobilités actives, pour des transports en commun. Donc toutes ces solutions-là, elles existent, mais les enjeux, si on veut contenir le réchauffement climatique à un niveau bas, c'est mettre en place des transformations dans ces grands systèmes. Énergie, ville, agriculture, gestion des forêts, système alimentaire, organisation des villes, le métabolisme complet des villes, le transformer pour réduire graduellement les rejets de gaz à effet de serre associés et puis dans l'industrie. Et si on veut contenir le réchauffement climatique à un niveau bas, il y a aussi la question du style de vie, en fait. Parce que ce que nous consommons, si notre demande en énergie ne fait qu'augmenter, notre demande en matériaux ne fait qu'augmenter, ou notre demande alimentaire, elle a un fort impact environnemental sur les terres, les émissions de gaz à effet de serre, alors ces grands systèmes de production, ils seront tellement vastes qu'ils seront difficiles à transformer rapidement. Donc si on veut contenir le réchauffement climatique à un niveau bas, il y a aussi une question, pas simplement d'innovation technologique, mais d'innovation sociale, d'innovation frugale et de sobriété qui se pose de manière importante. Alors, je termine sur les émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg. Ce sont les chiffres du ministère de l'Environnement. Et vous voyez que les émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg étaient maximales dans les années 90. Elles ont diminué, en fait, c'est la fin de la sidérurgie, comme dans ma région natale, la Lorraine, qui ont conduit à une baisse forte dans le secteur de l'industrie. Il y a eu des petites fluctuations sur la production d'électricité, avec plus ou moins de gaz, sauf erreur de ma part. Et puis, vous voyez que le poste le plus important, c'est celui du transport routier, transport de marchandises, par différents modes. Ça n'intègre pas ici les importations, ça n'intègre pas l'effet des exportations, donc le tourisme pour le carburant. Mais il y a vraiment des enjeux, en fait, agir, ici comme partout ailleurs, sur les facteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre, si on veut avoir une chance de participer à l'effort collectif pour contenir l'ampleur du réchauffement climatique mondial. Et je précise que pour le Luxembourg, les émissions de gaz à effet de serre par personne, alors j'ai fait un petit calcul simple, c'est la population 600, 2000 et quelques personnes, les estimations d'émissions locales, on parvient à plus de 17 tonnes par personne et par an, c'est le plus haut de tous les pays européens, c'est quasiment deux fois plus que la moyenne européenne, et ça n'intègre pas l'effet des biens manufacturés qui sont importés en provenance de Pologne, de Chine et d'ailleurs. Et donc je reprends mes points précédents. Donc j'espère vous avoir montré finalement à la fois comment on travaille sur le climat, quelques-uns des résultats importants en termes de risques, mais aussi en termes de solutions. Je suis passée rapidement sur ce volet-là, qui montre qu'il y a de nombreuses options pour agir. Et agir, c'est anticiper pour réduire les risques en réduisant la vulnérabilité, l'exposition, mais en réduisant également les rejets de gaz à effet de serre, aussi bien pour préserver des écosystèmes auxquels on tient, que pour permettre aux jeunes générations d'aujourd'hui d'avoir des conditions de vie dignes partout dans le monde. Et le dernier point qui me semble essentiel, c'est qu'il y a une inégale répartition de responsabilités historiques et actuelles. Des conséquences très différentes selon les régions, selon les générations, les vulnérabilités et les capacités à agir. Et au fond, la question du changement climatique, c'est profondément une question de justice. Je vous remercie de votre attention.